voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Face aux réalités humaines, économiques et écologiques actuelles, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur notre devenir et sur le rôle que chacun peut jouer. Il ne s'agit plus d'être simplement spectateur d'un système qui nous démange, mais de devenir l'un des acteurs du changement. Fondatrice de la société Guayapi, Claudie Ravel est une femme passionnante et passionnée. Elle incarne parfaitement la cohérence entre les valeurs qu'elle défend personnellement et professionnellement.
Je suis très très militante, je suis animée. Le mot militant vient après finalement le fait que de toute petite j'ai été animée par un environnemental pour moi essentiel à palper, toucher, à travailler. On travaille la terre du jardin de mon père par exemple et puis l'environnemental ça représente aussi la biodiversité des peuples à travers le monde, les peuples à travers le monde avec qui on fait des rencontres, quand on aime finalement le voyage, parce qu'on aime voir la biodiversité ici, chez nous, dans un milieu local, dans notre petit jardin d'à côté, de la région parisienne pour mes parents à l'époque, banlieue parisienne, et puis maintenant à la campagne, où je dois partir d'ailleurs tout à l'heure à La Trimouille dans la Vienne, où il y a un jardin qui est super, qui est une jungle aussi, une petite jungle. Et puis après, d'ailleurs, quand tout d'un coup on rencontre des peuples au fin fond d'une forêt, qui sont par exemple les Indiens Satere Maoé, avec qui, que j'affectionne particulièrement, c'est ma famille là-bas d'Amazonie, on va dire. Il y a 25 ans, j'ai fondé cette société Guayapi, et donc c'est en totale cohérence avec mon enfance, mon éducation, ma culture familiale, ma mère qui nous éduquait avec les médecines du monde. Enfin, elle aimait bien la médecine chinoise. Elle nous a fait toujours faire des soins homéopathiques si on était malade. On est trois sœurs et vraiment, on est en pleine forme. Donc, les médecines du monde, c'est pas loin des idées de Guayapi de mettre sur le marché des produits qui sont des produits alimentaires, qui sont courants, typiques, pour les peuples que j'ai rencontrés au fin fond de l'Amazonie ou au Sri Lanka, dans les villages agricoles du Sri Lanka. C'est complètement typique, c'est traditionnel. Et quelquefois, d'ailleurs, ils ne savent pas le valoriser. Donc, c'est éventuellement en voie d'extinction. Parce que comme le regard de l'occidental qui est venu les visiter, ça n'a pas été de regarder leurs plantes traditionnelles, là, qui s'appellent Kitul ou qui s'appellent Kurakan. On s'y est pas intéressé. Si le blanc, l'occidental s'y est pas intéressé, c'est qu'il n'y a pas de valeur. Donc on essaie, par exemple, de planter du thé en monoculture, parce que les Anglais l'ont amené. Et si les Anglais adoraient ça pendant 100 ans, ils ont fait des monocultures intensives de thé. En 1850, il y avait 60% de forêts tropicales au Sri Lanka. Ils sont partis en 1948. Les accords administratifs, d'ailleurs, se sont séparés en 1972. Il en restait plus que 2%. Il faut bien se dire que malheureusement, partout dans le monde, c'est le regard des pays qui dominent, c'est une domination qu'ont fait les pays du Nord sur les pays du Sud.
Qui impose leur vision sur le reste du monde.
Qui impose la vision sur le reste du monde. Et de ce fait, les peuples, ils vont penser que n'ont d'intérêt que les produits sur lesquels on aura mis notre regard. Mais comme on est dans le Nord, notre biodiversité, elle est limitée à ce qu'on a dans le Nord. On rencontre plein de variétés végétales, botaniques et tout dans le Sud, mais il faut les valoriser.
Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on n'est pas dépendant, on n'est pas indépendant, on est vraiment tous interdépendants. Cette interdépendance, c'est vraiment bien de la prendre en considération dans notre quotidien. Mais là, je m'a plus m'intéressé à ton côté, à ta vie professionnelle. Donc, si j'ai bien compris, dès le départ, tu as tout de suite su dans quelle direction tu voulais aller, quelles étaient les valeurs que tu nourrissais en toi et comment essayer de les incarner dans une vie professionnelle.
Voilà, c'est ça. Au fond, je trouve que c'est vraiment une joie, un bonheur d'avoir créé ce Guayapi, cette société Guayapi. Bon, finalement, j'étais enceinte, je me disais, je vais créer mon poste, je vais avoir un ou deux collaborateurs. Et puis, quand on reste comme ça sur le chemin, qu'on n'en déroge pas, puis que bon, a priori, je pense qu'il y a une logique quoi, de se dire, on va s'intéresser à tout ce que j'avais pu connaître dans mes voyages. J'avais voyagé beaucoup, quitte à dormir sur les bancs en Inde quand j'étais étudiante et que je travaillais sur les marchés pour me payer un petit voyage. Mais finalement, de l'Inde, des Indes en Polynésie, aux îles Marquises, aux Galapagos, Amérique du Sud, etc. Le voyage m'a toujours animée, interpellée. Donc de ce fait, j'ai voulu créer mon poste, une société, en répondant à la fois à mon éducation, ma culture, qui tout à coup, en fait, c'est arrivé à 30 ans hein, qu'on se dit... Mais au fond, ça m'intéresse, ça, c'est ça. Ma mère avait raison, parce qu'à 20 ans, c'est l'inverse. On part, on dit, c'est un peu casse-pied de toujours manger un fruit, un légume, etc., parce que c'est bon pour ci, c'est bon pour ça, etc. Et après, on y revient, la rencontre avec l'autre dans le monde, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est hyper, hyper essentiel, important. Donc, du coup, créer sa société sur ce qui nous anime, sur notre culture, plus dont on a, sur notre hobby, sur nos valeurs, c'est un luxe.
Avant de me présenter la structure Guayapi, donc c'est un luxe, mais toi, oui, tu l'as incarné, tu l'as fait, c'est possible hein, aujourd'hui de s'insérer dans un système économique, de créer de la valeur, tout en ayant en phase avec une certaine idéologie.
Voilà, c'est faisable et moi j'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à faire, à créer ce genre d'initiative, de répondre finalement aux besoins éthiques de la planète, d'être animé, je l'espère, parce que finalement, de plus en plus, la conscience des gens nous semble répondre à ça, mais il y a du déclaratif quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup de déclaratifs entre les gens qui disent « oui, moi, j'achète du produit de commerce équitable », et puis finalement, ils vont être devant les rayons, s'il y a un petit 60 centimes de plus ou 1 euro, on n'arrête pas d'entendre parler du prix, du prix, du prix. Or, un prix d'un produit noble, il a son prix juste, il a sa juste valeur. Après, oui, que les gens, les budgets des ménages actuellement ont été chiffrés à 12% ou 13%, alors que la téléphonie, elle est à 36%, pour moi, ça m'accable, quoi. C'est-à-dire que la téléphonie et tous les gadgets électroniques, oui, c'est le progrès, il faut avoir son portable, ou je ne sais pas, mais maintenant, quand on voyage dans des transports en commun, ou même dans n'importe quel transport, tout le monde est isolé tout seul en remuant des boutons sur des espèces de petites manettes, de petits machins, etc. On s'individualise, il n'y a plus cette espèce d'échange, de discussion qu'on pouvait avoir, d'observer l'autre, de se connaître, d'échanger un petit mot sympathique, etc. On s'enferme individuellement. Et donc, voilà, j'encourage, je reviens finalement à l'essentiel de la question, de ta question, Alexandre, c'est que j'encourage beaucoup de gens à des initiatives où on puisse travailler avec d'autres peuples, des gens qui ne nous ressemblent pas, etc., et puis essayer de voir quels sont leurs besoins, et puis les besoins qu'ils expriment, ben, les valoriser sur nos pays. Alors, des fois, ça va bousculer les habitudes dans nos pays des gens, parce qu'ils ont l'habitude de ça. Et l'opportuniste, des fois, dira « Tiens, le consommateur, en ce moment, il a besoin de ça. Donc, je vais aller dans les pays du Sud, je vais peut-être couper des forêts, on va rajouter du chocolat, parce que le chocolat est très tendance, hein, partout, le chocolat cru, le chocolat comme ça, etc. Mais finalement, donc, il faut produire, 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 produire. Bon, donc, finalement, c'est plus de la biodiversité, on se met à en produire beaucoup, parce que l'homme occidental du Nord, il adore le chocolat sous toutes ses formes, et c'est devenu, finalement, en ce moment... une tendance. Donc, faisons du chocolat, oui. Donc, après, ça permet de couper des forêts en Bolivie pour apporter de l'économie au peuple qui vivent là et qui n'arrivaient pas à vivre de leur substance, de leur nourriture, de leurs produits qui sont inconnus pour nous, atypiques dans nos pays, mais par contre plein de valeurs qu'ils n'ont pas, bien sûr, pu expliquer, présenter. Ça n'a pas accès au marché du Nord, comme je dis souvent. Alors, finalement, malheureusement, on se met à leur imposer une monoculture d'un produit et ce sera éventuellement tamponné par le commerce équitable ou ce sera tamponné par les organismes certificateurs bio.
Donc, ça répond en fait au mode du marché, quoi. On a vu le goji apparaître, on a vu des choses comme ça qui arrivent, le quinoa.
Voilà, je voulais parler justement, là, voilà, les excès, c'est le drame qui est arrivé sur le quinoa, tamponné de tout ce qu'il fallait, hein. Et le goji, c'est de la folie. En fait, on devrait arrêter de demander du goji. J'étais dans le Sikkim quand les Lapchenpa, c'est des peuples avec qui j'ai travaillé sur le tarbou des terres d'origine, c'est l'argousier sauvage. dans le Sikkim. Il me disait, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez dans ce goji, en fait? Et vous avez dans vos pays d'autres fruits. Et c'est vrai que si on prend un petit antioxydant orangé dans notre pays, on va trouver, je sais pas, des légumes, des fruits, des potimarrons, des potirons, des fruits, peut-être des myrtilles, etc., qui ont des mêmes valeurs antioxydantes. Mais tout à coup, il y a des chercheurs qui se mettent à vouloir monter ce produit économiquement parlant et qui vont se mettre au service d'une économie de marché et vont valoriser le produit dans quelque chose d'excessif. On voit aussi l'histoire de la maca, où là les Chinois sont venus acheter 400 tonnes. On a nos petits producteurs qui sont aux abois. Enfin voilà, l'équilibre dans ce monde, il y a beaucoup de boulot à faire. Et je dirais que tous les chômeurs du monde pourraient s'atteler à cette problématique de valorisation de notre terre biodiversifiée, avec des écosystèmes respectés et des populations respectées avec leur nourriture et la souveraineté alimentaire. Et il y aurait du boulot pour tout le monde.
Claudie, c'est génial ce que tu dis, mais en même temps, ça me paraît un peu utopique dans le sens où il faut en arriver à se poser les bonnes questions, il faut en arriver à développer peut-être sa réflexion et être plus en conscience par rapport au monde assez complexe dans lequel on vit aujourd'hui.
Oui, alors on vit dans un monde assez complexe et je répondrai à ça parce que on l'a rendu complexe, parce qu'on a répondu justement à un pouvoir trop économique à mon avis. L'éthique n'est pas économique, ça je peux le dire souvent, je peux le confirmer. Au bout de 25 ans, Guayapic, malgré tout, on est tendu au niveau de trésorerie, au niveau, etc. On n'est pas une PME explosive qui est allée chercher qu'est-ce qui marche sur le marché, je vais le faire comme j'ai vu mes collègues. Donc en fait, bon, les grands s'intéressent des fois pour des objectifs économiques, ils vont finalement transformer la plante en être propriétaire, c'est quand même un sujet de biopiraterie à mon avis, hein. Être propriétaire des molécules de plantes qui ont un certain pouvoir sucrant, là celle-ci, qui répond au fléau mondial qu'est l'obésité, il n'y a pas de sucrose, pas de saccharose, de machin, ça c'est excellent pour les diabétiques, mais du coup il y a la problématique du coup de se l'approprier parce que il y a le pouvoir économique. Donc l'économique n'est pas éthique, souvent l'éthique n'est pas économique.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
J'aimerais qu'on définisse les termes qu'on utilise beaucoup dans notre échange, le terme économique et le terme équitable. Qu'est-ce que c'est pour toi l'économique et qu'est-ce que c'est équitable ? Est-ce que tu pourrais le définir ?
Oui. Parce qu'en fait, j'ai créé une société de commerce équitable et c'est économique aussi. Donc l'économique, je l'ai utilisé, je ne l'ai pas qualifié, j'aurais dû dire en excès, puisqu'en fait, de toute façon, on vit dans un monde global sur toute la Terre où l'économique, c'est du chiffrage avec ce qui permet de payer, parce que finalement on est dans un monde de paiement des denrées, on fait plus du troc comme à certaines origines, donc il y a de la monnaie d'échange, et pour cet échange donc c'est de l'économique. Donc nous, notre société, elle est économique, mais après j'ai oublié de qualifier en disant l'économique à outrance, c'est-à-dire n'ayant pour objectif éventuellement qu'un déploiement de ressources maximale qui pourrait éventuellement obérer sur du qualitatif, sur de l'éthique, etc. Voilà, c'est là où je les ai mis en opposition. Mais toutefois, de l'éthique peut-être économique. Hein, mais c'est là à outrance et en excès. Les excès sont toujours de toute façon mauvais, hein, même dans la santé.
Je m'intéressais au mot équitable et le côté responsable. Donc, oui. J'aimerais qu'on s'adresse au consommateur qui a un réel pouvoir, hein, qui a le pouvoir d'achat. Oui. Donc, quel conseil tu donnerais ? Pourquoi consommer équitable ? En quoi est-ce que cette démarche est importante ?
Oui, le consommateur, en fait, premièrement, moi, je lui suggérerais de bien vérifier toutes les étiquettes, les sources des produits. Enfin, ça a été dit plusieurs fois. Mais encore plus, l'inciter à bien gratter, aller plus loin, poser des questions sur les produits qu'il achète. Et ensuite, le mettre en vigilance de la course au bas prix. De toujours dire, tiens, mais oui, mais il y en a un autre qui fait moins cher. Le moins cher, en fait, on peut toujours faire moins cher. Mais comme n'importe quelle denrée dans ce monde. Nous, en fait, en France, on a nos vins qui sont des vins, justement, c'est une référence. On parle des vins de château, on parle des vins de terroir. On parle de petits vins, de grands vins, de vins moyens, etc. Le guarana, c'est exactement la même chose. Et donc, je pense qu'on peut faire des dégâts rapidement si on cherche le bas prix. Il faut bien se dire qu'il faut acheter au juste prix. Et donc, pour moi, équitable, c'est effectivement les trois piliers de la définition, en fait, de la loi qui existe. Hein. Un travail décent avec les populations avec qui on travaille, en les rémunérant de manière décente et en incluant un montant prévu pour les projets de développement. C'est ça qui est important.
Mais aussi la démarche écologique.
Voilà, la démarche écologique, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est arrivé plus tard hein, dans le monde du commerce équitable. Hein, la démarche écologique n'était pas du tout à l'ordre du jour quand la plateforme du commerce équitable s'est créée. Nous-mêmes, nous étions des environnementalistes, on va dire, hein, puisqu'on a toujours considéré que les choses sont convergentes. C'est-à-dire un individu, quand il doit être respecté, on ne doit pas lui mettre plein de pesticides pour intensifier des productions, pour faire en fait après de l'économie. Et il faut qu'on fasse très très attention à ça.
Claudie, donc aujourd'hui tu es fondatrice de Guayapi. Est-ce que tu te sens à ta place dans ce que tu as créé ?
Oui, je suis très très satisfaite parce que jamais j'aurais pensé avoir 15 collaborateurs chez Guayapi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Ce que je trouve intéressant dans ce que quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que finalement la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est difficile à définir. Vous êtes complètement impliqué, vous portez ces valeurs-là, et finalement, est-ce qu'on travaille vraiment quand on travaille pour les valeurs qu'on défend?
Tu as complètement raison, Alexandre, à tel point que, avec le temps là que j'ai passé, j'ai fait un morceau de route, les gens me posent des questions qui me surprennent. Ils me disent, alors, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? J'ai dit, mais la retraite, je l'imagine pas. C'est-à-dire, peut-être, je vais mourir sur un bateau au fin fond de l'Amazonie en parlant à Vocobadias des heures et des heures comme on le fait quand je suis en Amazonie ou au Sri Lanka parce que ma force me quittera. Mais il n'y a pas de retraite, en fait, dans ces cas-là, quand finalement, on a réalisé dans la société qu'on a créée, en se donnant, en fait, en permettant d'avoir créé son poste, créé le poste de quelques collaborateurs, je mourrais là, je sais pas, quelque part, au fin fond de quelque part. Hein,
mais c'est beau de travailler comme ça, parce que du coup, cette notion du travail n'est plus vraiment un travail. On fait juste les choses parce qu'on est animé par une passion.
Et oui, c'est vraiment une passion. Et qu'est-ce que je suis contente le matin? Je suis toujours, enfin, parce que les gens me disent, oui, mais arrive à un moment donné, tu vas voir, tu vas te lasser. Mais me lasser de quoi? Je trouve que c'est énormément passionnant, en fait, de pouvoir, en fait, travailler comme je le fais, de ma passion, qui était un rêve de gamine quand j'avais 6-7 ans, etc., faire le tour du monde. Je me souviens, j'étais abonnée au livre Le Tour du Monde, où on collait des décalcomanies et tout. Et puis, vraiment, c'est une passion et il n'y a pas de frontières. Et au fond, c'est un travail qui est rémunéré, donc c'est super hein, si on peut en vivre.
Donc, ce que je trouve vraiment remarquable, c'est non seulement tu as ta place dans ce que tu fais, dans l'œuvre que tu mets dans ta vie au quotidien, mais en plus de ça, dans le système économique actuel, tu es créatrice d'emplois. Ici en France, mais aussi à l'étranger.
Et oui, c'est vrai qu'à l'étranger, je suis hyper contente. Par exemple, si je prends, pour exemple, les Satere Maoué, les Indiens, Satere Maoué, quand je les ai connus, ils étaient 6000 Indiens à être décidés, avoir cette volonté de garder leur autonomie politique, voire économique après, puisque ça a débouché sur l'économique. Et maintenant, ils sont 13 000 Indiens, de 6 000 à 13 000.
Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil pour trouver aujourd'hui sa place et se sentir bien dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait ?
Être authentique, déjà. Être authentique, être transparent, être honnête. Essayer de faire vraiment une analyse de soi-même, c'est-à-dire que tous les individus, je pense, ont leur place et ne permettraient pas un monde pas beau. Je dis bien ne permettrait pas, ce sont les individus qui ont généré un monde pas beau, je pense, par des tricheries, par des camouflages, par des choses pas dites, etc. Si c'était transparent, je pense pas qu'il y ait eu des conséquences dramatiques comme on peut les vivre, à la fois, je sais pas, de guerre, d'environnement dégradé, etc. Je pense que l'honnêteté, la transparence de tout, on doit être le premier objectif de tous les individus dans le monde, à mon avis. Alors c'est peut-être utopique, hein, Alexandre, parce qu'on essayait, les gens essaient toujours de faire avec ce qui est pas bien, en disant oui mais le monde est comme ça, donc il faut faire comme ça. Non, il faut chercher la raison. La gangrène, elle est au fond, et au fond on l'a générée comme ça. C'est le monde occidental, enfin occidental principalement. Après bien sûr il y a des détracteurs dans tous les pays du monde, hein, j'en ai rencontré. De tous les pays, il y en a quelques-uns. Essayons en fait de combattre ça. les gens qui sont des tracteurs, des gens qui trichent, des gens qui sont malhonnêtes. Il faut arrêter ça. Je te remercie pour ton intérêt et ta sensibilité encore.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.